Après-demain aura lieu dans toute la France le jour de la nuit. C'est une opération de sensibilisation au problème de la pollution lumineuse et au programme justement de ce rendez-vous des balades nocturnes, des observations de la voûte céleste et des extinctions des lumières dans les villes. Et dans un livre qui paraît aujourd'hui et intitulé « Sauver la nuit » justement, le géographe Samuel Chalea milite pour une reconquête de l'obscurité alors qu'un tiers de l'humanité ne voit plus la Voie lactée. Les scientifiques observent des effets délétères de plus en plus nombreux justement de l'excès de lumière artificielle sur le monde vivant. Samuel Chalea est mon invité dans un instant. Vous pouvez lui poser bien sûr toutes vos questions dès maintenant. 01 45 24 7000 franceinter.fr et le mot-clé la TAC. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert ensemble dans quelques minutes.
Et si Greta Thunberg avait demain le prix Nobel de la paix?
On en parle avec vous dans la deuxième demi-heure, le feuilleton de la semaine. Dernier reportage à Langouette en Bretagne. Le village veut produire sa propre électricité verte. Vos solutions pour la planète avec Ali, une auditrice qui est architecte et qui travaille sur des constructions zéro déchet. Et puis enfin, notre invité découverte sera Alex McLean, un photographe américain, auteur d'un livre de photos aériennes qui rend compte de la montée des eaux. Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Valérie Ayestaraï, avec à la technique Johanna Gabric et Tristan Gratalon.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Montre-moi les constellations que tu connais.
Je sais pas. J'en connais aucune.
Montre-moi celle que tu connais.
D'accord. Là, c'est Ocidius.
Où ça?
Juste là. Tu vois? Une espèce d'arc qui se termine par une croix. Ocidius la flexible.
Tu me racontes des conneries.
Non. Ocidius est juste là. Un arc et au bout, une croix.
T'as fini de te foutre de moi.
Extrait du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bonjour Samuel Chalea.
Bonjour Mathieu.
Est-ce qu'à votre avis, on pourra encore dans quelques années s'allonger sur l'herbe pour regarder les étoiles les soirs d'été?
Du moins je l'espère. Je l'espère parce que cette capacité à nous émerveiller devant un ciel étoilé, il faut la maintenir à tout prix. L'émerveillement, c'est quand même une sensation qui est primordiale et qui nous amène. En plus, il y a quelques travaux récents qui nous montrent que quand on a encore la capacité de s'émerveiller devant la nature, devant un spectacle naturel, on enclenche plus facilement des choix pro-environnementaux dans notre vie personnelle, dans nos décisions politiques et dans notre participation à la vie de la cité.
Alors, vous êtes géographe et chercheur invité au sein du laboratoire Géode. C'est une unité mixte de recherche CNRS et Université de Toulouse 2. Et donc, vous publiez cet ouvrage aujourd'hui, Sauver la nuit, c'est un très beau titre, aux éditions Premier Parallèle. On y apprend que 83% de la population mondiale vit sous un ciel entaché de pollution lumineuse et qu'aujourd'hui, on le disait, la Voie lactée n'est plus accessible pour un tiers de l'humanité quasiment.
C'est ça, même pour un tiers de l'humanité. Et puis si on fait un petit focus, un petit zoom sur l'Europe, on monte à deux tiers de la population européenne qui n'a plus aujourd'hui accès visuellement à cette Voie lactée, qui est obligée de s'extraire à des dizaines, voire des centaines de kilomètres des grandes villes, des grandes agglomérations, pour retrouver ce contact visuel, cette sensation, cette possibilité de s'émerveiller devant un ciel nocturne.
Alors justement, si à Paris on souhaite voir vraiment un très beau ciel étoilé, il faut aller où? Alors qu'est-ce que vous nous conseillez?
Alors pour retrouver un site dénué de pollution lumineuse au zénith, vous devez faire 900 km. Voilà, ça peut paraître un petit peu aberrant, ça peut paraître énorme, surestimé, mais en fait, quand vous allez sortir de Paris, c'est pas le rayon d'action négatif en termes de pollution de lumineuse de Paris n'est pas de 900 km, mais vous sortez de Paris, vous tombez sur d'autres villes qui vous renvoient toujours de plus en plus loin, et vous devez aller en Corse, dans les Cévennes, dans les Pyrénées, en Écosse, par exemple, pour retrouver ce ciel étoilé. À proximité plus proche, il y a le Morvan, par exemple, qui est un très bon endroit.
Alors, il y a des sites, effectivement, comme les Cévennes, que vous citez, qui sont vraiment des sites reconnus comme étant des hotspots de la beauté du ciel, on pourrait presque dire des choses comme ça. Hein.
C'est ça, exactement, qui sont reconnus et même aujourd'hui labellisés pour cette qualité du ciel étoilé, pour la possibilité qu'ils redonnent à leurs visiteurs de vivre cette expérience d'obscurité, cette expérience de nature nocturne. Donc ils sont labellisés réserve internationale de ciel étoilé, les Cévennes, l'ensemble du parc national des Cévennes, une zone autour de l'observatoire du Pic du Midi dans les Pyrénées, et puis d'autres parcs naturels régionaux, parcs nationaux, sont en train d'emboîter le pas de cette course au label, de cette labellisation. labellisation.
Ouais. Et alors du coup, il y a des obligations par rapport à ce label à respecter, j'imagine.
Voilà, il y a un plan de gestion de l'éclairage à déployer. En fait, il s'agit de mettre en œuvre un véritable projet de territoire, c'est-à-dire d'organiser la coordination des différents acteurs, des élus, des syndicats d'énergie, etc., des habitants, développer des programmes de sciences participatives. Et puis derrière, il y a tout un ensemble de prescriptions techniques, effectivement, à suivre pour améliorer la qualité de l'éclairage. Et un meilleur éclairage, ça peut aussi déboucher sur un meilleur ciel étoilé.
Alors vous êtes un militant de l'obscurité, justement, Samuel Chaléa. Moi j'aime beaucoup d'ailleurs cette action, parce qu'il faut valoriser la nuit et valoriser l'obscurité, ce qui va un peu à l'encontre de notre perception naturelle des choses, hein, quasiment.
Mais oui, bien sûr, puisque la lumière est l'archétype du progrès dans notre imaginaire. La lumière, c'est le bien contre le mal, hein, l'opposition à Dark Vador, pour reprendre l'image classique.
C'est
le savoir contre l'ignorance, ouais. C'est la fée électricité. Voilà, donc il y a cet imaginaire du progrès qui vient se faire percuter par cette conception de l'éclairage artificiel en tant que nouvelle forme de pollution. Donc ça, c'est pas évident. Et en fait, ce que ça met en regard, enfin ce que ça met en exergue, c'est que l'obscurité devient une nouvelle ressource naturelle dont il faut prendre soin et dont il faut essayer d'améliorer sa qualité dans les territoires.
Incroyable, donc, quand on y pense finalement. C'est-à-dire à quel point on oublie l'importance vitale aussi de cette alternance jour et nuit dans le monde vivant, dans l'ensemble du monde vivant, pour les plantes comme pour les animaux et comme les hommes aussi. Donc ça, il faut réhabiliter tout ça, c'est ça que vous nous dites,
voilà,
finalement.
Cette alternance naturelle entre la lumière et l'obscurité régit véritablement l'ensemble du vivant, hein, si ce n'est le vivant qui se trouve dans les grandes fosses marines, etc., qui n'est pas soumis à ces régimes naturels de luminosité. Mais l'obscurité fait véritablement ressource pour le vivant, par exemple, pour la faune. L'obscurité, la faune a besoin d'espace et de temps d'obscurité pour se déplacer, pour communiquer, pour se reproduire, pour migrer, etc. Nous, humains, avons besoin d'obscurité pour avoir une bonne qualité de sommeil et pour recaler notre horloge biologique. Donc quand on va se soumettre à la lumière artificielle, par exemple,
quand
on va passer 3 heures sur le fil Twitter, etc.,
avant
de s'endormir, on va repousser l'endormissement et puis dégrader la qualité du sommeil.
Est-ce qu'il y a une vraie mobilisation de la part des scientifiques aujourd'hui, justement, pour sauver la nuit, compte tenu précisément des enjeux vitaux que ça représente, hein?
Alors, il y a une réelle mobilisation de la part des scientifiques, et puis une réelle mobilisation de la part de tout un tissu associatif aussi. Il ne faut pas l'oublier. Hein, cette problématique, elle part dans les années 1950-1960 de l'astronomie professionnelle, qui voit son objet d'étude dégrader le ciel étoilé, dégrader sous l'effet de la lumière artificielle. Et puis, peu à peu, vont prendre le relais les astronomes amateurs. Donc, ce sont les amateurs qui, eux, vont porter le problème sur la place publique, véritablement. Mmh. Et puis, dans les années 80-90-2000, de nouveaux champs de savoir scientifique, notamment l'écologie, la chronobiologie, la médecine du sommeil, viennent se greffer à cette problématique et la portent dans le milieu scientifique.
Alors vous, Samuel Chaléa, vous défendez justement une idée, celle de la mise en œuvre d'un réseau écologique sombre. Là encore, on est dans des mots qui sont presque surprenants, hein, mais c'est avec ça que vous comptez aussi fédérer autour de vous.
Oui, alors je ne suis pas le seul à apporter ce projet de mise en œuvre de réseau écologique sombre. En fait, cet enjeu de mise en œuvre d'un réseau écologique sombre, un réseau écologique, c'est quoi? C'est juste connecter entre des réservoirs de biodiversité pour permettre aux populations animales de se déplacer et de ne pas dépérir par appauvrissement génétique, par exemple, ou par insularisation. On s'est dit, il faut aussi appliquer ça aux enjeux nocturnes, puisqu'on voit que la protection de l'obscurité, que la lumière artificielle peut avoir un effet barrière sur les déplacements des populations animales. Donc, il faut rétablir des continuités écologiques nocturnes dans les territoires.
Avec des zones de réserve de ciel étoilé, par exemple, hein, ça pourrait en faire partie.
Voilà.
Donc, ça concerne la campagne comme la ville aussi, ou pas seulement les lieux dédiés comme les parcs naturels, hein.
Voilà, c'est ça qui est intéressant avec ce concept scientifique de réseau écologique sombre, et qui est en train de trouver une traduction en instrument d'action publique au travers de la trame noire. C'est qu'elle extrait la protection, elle permet d'extraire la protection de l'obscurité des seuls espaces dédiés. On l'a parlé tout à l'heure des réserves internationales de ciel étoilé. Ces réserves internationales de ciel étoilé, dans un réseau écologique sombre, constitueraient des macro-réservoirs d'obscurité, mais il faut les relier entre eux. Pour l'instant, ils ne sont pas reliés. Donc, ça ne permet pas aux populations animales de se déplacer durant la nuit.
Bon, alors tissons cette toile d'araignée de l'obscurité, et puis en attendant, le jour de la nuit, c'est samedi partout en France, c'est une opération de sensibilisation. Il y a des actions très chouettes, hein, qui sont organisées, qui vont consister à éteindre la lumière dans certaines villes par exemple. Il y a une carte qui est très bien faite avec tous les points de rendez-vous, il suffit d'aller sur le site jourdelanuit.fr, et puis il y a un concours également qui s'appelle Ville et Village Étoilés, qui est organisé par l'ANPCEN.
l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement.
Ouais. Ça consiste en quoi ce concours ?
Alors ce concours, c'est un concours labellisant en fait qui incite les communes à déjà porter attention à leur éclairage public. Hein. Il faut bien s'imaginer que jusqu'à il y a 10 ans, les élus ne pensaient pas vraiment à leur éclairage public. Il fallait installer de la lumière, on installait de la lumière, on ne regardait pas la qualité, on ne regardait pas la quantité. En fait, ce concours, il est intéressant parce qu'il pousse les communes à reconsidérer la fabrique de l'éclairage urbain.
Et je suis sûr que les auditeurs de la Terre au Carré sont sensibles à cette question. Sauver la nuit, comment l'obscurité disparaît, ce que sa disparition fait aux vivants et comment la reconquérir. C'est chez Premier Parallèle, vous êtes notre invité Samuel Chaléa et on dialogue ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter. La Terre au Carré.
Camille Passauvert et Camille Cronier, on reparle de Greta Thunberg aujourd'hui parce qu'à la veille de l'annonce du prix Nobel de la paix à Oslo, eh bien son nom circule beaucoup.
Mais oui, elle est même favorite sur les sites de paris en ligne. 96% des parieurs du bookmaker britannique William Hill, par exemple, ont misé sur la Suédoise devenue symbole de la défense du climat. Et puis, une ancienne lauréate de la prestigieuse récompense, la libérienne Lema Gbowe, prix Nobel en 2011 pour sa lutte en faveur des femmes contre les chefs de guerre locaux, a dit qu'elle aimerait que le prix revienne cette année à de jeunes activistes, dont Greta. Mais l'idée ne fait pas l'unanimité, ni chez les experts, ni dans la rue.
Franchement, pour le prix Nobel de la paix, peut-être quelqu'un d'un peu plus optimiste.
Ça se discute.
Moi, vous me permettrez d'avoir un léger doute.
Est-ce que vous pensez qu'elle le mériterait ?
Pas du tout.
Elle est trop théorique, elle est trop alarmiste, elle est trop politisée. Je ne souhaite pas que ce soit elle, en fait.
Et même chez les ados de l'âge de Greta Thunberg, on est sceptique. Écoutez plutôt Ayanis, lycéen en seconde.
On ne peut pas décerner un prix aussi important à une seulement une adolescente, malgré le fait qu'elle fasse grande chose. Pour moi, ça ne mérite pas le prix Nobel de la paix.
Alors, d'autant qu'il a un doute, Ayanis, sur le thème de la lutte de la Suédoise, le climat.
Je ne sais pas comment expliquer, mais il n'y a pas vraiment de rapport avec la paix. Pour moi, ce serait plutôt des personnes qui ont fait quelque chose pour les guerres en Syrie ou en Libye. J'estime qu'ils ont apporté la paix à des millions de personnes.
Voilà, c'est l'un des obstacles que beaucoup des personnes que j'ai croisées ont mis en avant. Son action n'a pas encore abouti à des résultats concrets.
Je trouve que son action, elle est quand même, voilà, elle est à saluer. Maintenant, d'en faire un prix Nobel, c'est peut-être là encore un peu trop tôt.
Je pense qu'il faut avoir fait des choses très très importantes pour avoir un prix Nobel de la paix. Il faut vraiment s'être confronté à la guerre. C'est une remueuse de conscience. C'est extraordinaire. Mais le prix Nobel, ça doit être quelque chose de beaucoup plus fort. Maintenant, si elle arrive à faire que ça va bouger, là, elle le mérite.
Mais alors, une jeune femme, une seule dans ma quête, les a tous contredits.
Je voudrais savoir si vous pensez que Greta Thunberg mériterait le prix Nobel de la paix.
Oui, parce qu'on ne va pas tous s'en sortir sinon. Ça va tellement être la guerre pour le peu de ressources qui va rester, si on continue dans cette direction-là, que ouais, on parle de paix internationale.
D'ailleurs, le directeur de l'Institut national de recherche sur la paix de Stockholm, bon, en Suède, affirme que le changement climatique est étroitement lié à la sécurité et à la paix, et que sa compatriote est donc, je cite, une candidate sérieuse. Et devinez qui ça exaspère particulièrement.
Nous avons mieux à faire pour sauver ce qui peut l'être de la beauté du monde, que de nous mettre au garde à vous devant Greta Thunberg et d'écouter les abstraites sommations de la parole puérile.
Ce cher Alain Finkielkraut qui déclamait, vous l'avez entendu il y a quelques jours sur France Inter, son amour pour Greta Thunberg. Et devinez qui j'ai croisé l'autre soir alors que je partais courir, hasard total, le philosophe lui-même, il est partout décidément. Si elle avait le prix Nobel de la paix, là, par exemple, à la fin de la semaine, vous en penseriez quoi ?
J'aimerais à ce moment-là que le prix Nobel de littérature soit décerné à une enfant de 14 ans qui a fait une très très belle dissertation, un très beau commentaire de texte.
Pourquoi tant de haine contre Greta Thunberg ?
J'ai aucune haine, j'ai pitié de Greta Thunberg.
Voilà, et il est reparti avec ses amis et leur drapeau de la Manif pour tous, c'était dimanche. Alors pour revenir au prix Nobel de la paix, une médaille d'or, un diplôme et 830 000 euros, on aura beau faire des pronostics, on ne sait pas si Greta Thunberg est dans la liste des 301 noms que le comité a entre les mains. Pas même elle, toujours en tournée aux États-Unis. Rien ne filtre. Réponse à 11h demain matin. En attendant, et là c'est un fait, elle doit recevoir aujourd'hui le titre de docteur honoris causa de l'université de Mons en Belgique, comme Nicolas Hulot.
Mais elle ne pourra pas s'y rendre en avion, évidemment, parce qu'elle va retraverser l'Atlantique et ça va lui demander en bateau.
Possible.
Et ça va lui demander beaucoup de temps. Camille Cronier, évidemment, Camille Passauvert, à réécouter sur franceinter.fr.
Samuel Chaléa, la Norvège et la Suède, puisqu'on en parle, sont un peu le paradis de la nuit, non ? Enfin, surtout l'hiver.
polaire, évidemment, avec la nuit polaire.
Pour la Suède.
Ah oui, c'est le paradis de la nuit. Et puis, ce sont des pays qui ont très tôt valorisé l'obscurité aussi pour un spectacle un peu atypique qu'on ne trouve que sous leur latitude, les aurores boréales, par exemple.
Oui.
Voilà, il y a une très forte mise en tourisme de cet objet aurore boréale. Dans ces pays-là.
Il paraît même qu'on peut voir les étoiles les plus obscures certaines nuits pendant la nuit polaire. Alors je ne connais pas.
L'étoile obscure, ça pour moi c'est un concept obscur.
Les étoiles de la sixième génération. Alors me demandez pas.
D'accord, là,
je ne suis pas la spécialiste.
C'est l'histoire.
Vous atteignez mes limites en termes d'astronomie.
C'est l'étoile mystérieuse. C'est du Tintin, c'est tout.
Ça.
Samuel Chalela, vous êtes notre invité. On dialogue ensemble au Standard de France Inter et aussi sur les réseaux sociaux. Quelle Tina Wen, c'était Tina Riwen à l'instant.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Samuel Chalea, vous êtes docteur en géographie et vous publiez Sauver la nuit chez Premier Parallèle et on se bouscule au Standard de la Terre au carré pour dialoguer avec vous. On va tout de suite rejoindre Martine qui nous attend en ligne. Bonjour Martine.
Bonjour à tous.
Bienvenue, on écoute votre question.
Mais merci déjà de prendre ma question, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment très à cœur. Voilà. J'habite un village de 1000 habitants au cœur de la Brie. et je suis très étonnée et moi révoltée de voir ma collectivité locale multiplier les points lumineux, notamment le long départemental, ce qui induit forcément un accord de mon conseil départemental. Des points lumineux vont être installés prochainement le long d'un bois communal, 13 points lumineux, et moi je suis très inquiète sur la résonance au niveau de la faune notamment. Donc voilà, j'aurais voulu savoir comment peut-on laisser faire des choses et quelle peut être notre influence et éventuellement partager avec les habitants le non-sens de ces décisions.
Très bonne question. Samuel Chalet, à vous répondez à Martine.
Oui Martine, là, ce que vous mettez en évidence en fait c'est des conflits de compétences aussi en termes d'éclairage public entre l'élu qui a la compétence sur sa commune, le département qui a la compétence sur les voies départementales, etc. Donc on voit bien le problème, l'enjeu politique. Et puis ce que vous mettez aussi en avant, c'est des luttes d'intérêts. Il ne faut pas oublier que derrière l'éclairage public, il y a du matériel d'éclairage public, il y a des industriels de ces matériels d'éclairage public. Donc il y a des fortes luttes d'intérêts pour maintenir l'installation d'éclairage public dans les territoires. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous saisir de la loi qui commence à être très, très, très complète en France. Maintenant, on a construit un pacte législatif ces 10 dernières années. Des arrêtés sont passés au mois de décembre 2018 qui vont devoir être mis en application, qui sont déjà en application pour une part pour le matériel nouvellement installé, et puis qui vont devoir être mis en application à partir de 2020. Donc vous avez de quoi aujourd'hui interpeller les élus, et puis vous pouvez vous tourner vers ça, vers l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, vers France Nature Environnement ou vers d'autres associations environnementales qui pourront relayer vos revendications.
Est-ce que votre réponse est la même à Sylviane qui nous demande par mail quels arguments opposer à un conseil municipal de petit village qui s'oppose à une extinction des lampadaires pendant quelques heures la nuit?
Je pense que l'argument opposé, il faut bien avoir en tête qu'il y a deux fenêtres d'opportunité politique pour la problématique de la pollution lumineuse. C'est les économies budgétaires et énergétiques tout d'abord, qui quand même aujourd'hui intéressent les collectivités locales qui sont financièrement parfois mises en difficulté. Et puis l'enjeu de biodiversité et de santé publique. Donc là, il y a véritablement deux entrées possibles. Les économies d'énergie d'un côté et puis la santé et la biodiversité de l'autre.
Elisabeth, vous êtes en ligne. Bonjour à vous et bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Je vous remercie. Écoutez, je partage complètement la même situation que celle de Martine et de Sylviane. Et j'habite dans les Cévennes, donc je sais que c'est un réservoir de où on peut voir la nuit et le ciel merveilleusement, ce qui est vrai. J'y habite depuis plus de 40 ans. Et donc, je suis complètement opposée à cette installation qu'on me propose dans mon hameau, parce que j'aime énormément donc la beauté de la nuit. Et je trouve que l'éclairage est coûteux, néfaste, inutile. Mais par contre, voilà, si vraiment les habitants, j'ai des voisins qui veulent absolument cet éclairage. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est comment exiger une réglementation sérieuse qui oblige vraiment l'installation qui puisse permettre de s'allumer au passage de quelqu'un et donc de limiter cette pollution lumineuse. Voilà, je voudrais être certaine que ça puisse être comme ça et pas autrement.
Alors, Samuel Chalet a une réponse précise à Elisabeth.
Alors Elisabeth, là vous pointez l'enjeu de la concertation à l'échelle très locale entre des conflits d'usage des temporalités nocturnes et des espaces-temps nocturnes, en fait, entre vos voisins qui, eux, estiment avoir besoin de lumière artificielle et vous qui estimez avoir besoin d'obscurité. Donc vous mettez en regard deux besoins qui sont, l'éclairage artificiel est un bien public aussi et l'obscurité est en train d'être mise en avant comme un bien commun, finalement. Donc là, il y a les solutions techniques. Techniquement, on sait tout faire aujourd'hui en éclairage public, mais il faut bien avoir en tête qu'une commune, quand elle investit dans son matériel d'éclairage public, c'est pour une temporalité de 25 à 30 ans. Donc effectivement, si le matériel de votre commune a été changé il y a 15 ans, il ne faut pas s'imaginer que les élus vont changer dans 5 ans de matériel. Voilà, ça prendra un petit peu de temps. Mais par contre, il y a la solution politique. Et la trame noire dont on parlait tout à l'heure, elle peut aussi servir à ça. Elle peut servir à innerver de la participation citoyenne les territoires sur ces questions-là. En fait, elle peut servir à mettre en discussion ce couple entre lumière et obscurité. Donc il faut demander une réunion publique, par exemple.
Mais Samuel Chella, ils habitent dans les Cévennes quand même, où, on l'a dit tout à l'heure, il y a un label qui a été décerné, alors un site particulier des Cévennes. Mais est-ce qu'elle ne peut pas en jouer, justement, et le revendiquer?
Bien sûr que si, elle peut revendiquer, même si elle n'est pas dans le périmètre de la zone cœur de la réserve de ciel étoilé, elle peut revendiquer le fait qu'il faut protéger la ressource obscurité qui est à côté et qui est une ressource aussi touristique pour le territoire.
Camille.
Question de Vincent. Ne faudrait-il pas interdire les lampadaires urbains qui éclairent vers le haut, qu'on voit malheureusement dans certaines communes?
Alors ça va être fait. Enfin, c'est dans les nouveaux arrêtés.
C'est pire que tout, ça, finalement.
Ah, c'est pire que tout, parce qu'effectivement, l'archétype, c'était le lampadaire des années 70-80, le lampadaire boule, qui envoyait plus de lumière en direction du ciel qu'en direction du sol, en direction de ce qu'on appelle la surface utile à éclairer, là où on a véritablement besoin de lumière. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours de prise en considération.
Hervé, bonjour. Merci d'être avec nous dans la Terre au Carré. On écoute votre question.
Oui, alors j'arrive un peu tard parce que j'écoute depuis un petit moment et on a tourné autour. Je vais juste enfoncer le clou et ça va devenir un témoignage. Je vais revenir au début de l'émission où Samuel parlait de regarder les étoiles avec les enfants, tout ça, etc. Ce qui est une excellente idée pour développer l'imaginaire, l'esprit poétique, etc. Sauf que le petit exemple que je vais vous donner, nous sommes dans les monts du Forêt. Trois villages se suivent et les horaires... Et village étoilé, les trois. Hein. Donc labellisé, comme j'ai pu le comprendre tout à l'heure, que j'ai compris bien ce que c'est. Et les horaires d'extinction de l'éclairage public, à trois villages qui sont à 3 kilomètres les uns des autres, il n'y a pas d'harmonie sur ça. Exemple, 11h du soir, 5h du matin pour deux villages, ce qui est bien, et un autre de minuit à 4h du matin. Alors comment je fais avec mes petits-enfants quand ils viennent pour leur montrer la poésie du ciel étoilé, ou je les couche après minuit, ou il faut que je les réveille dans la nuit, ce qui ne va pas être bon non plus, vous voyez.
Oh, une fois de temps en temps, c'est pas si grave, Hervé.
Ah oui, non mais bien sûr, il y a samedi, mais bon, vous avez tourné autour de tout ça.
On vous comprend.
Comment faire la pression sur la municipalité, quand Samuel disait économie pour la commune, oui, pourquoi pas, mais ils veulent tous des lampadaires, biodiversité et santé publique, quand ils discutent, vous savez, dans leur voiture, ça peut tourner 15 minutes sans que... Ils me regardent comme un malade si je leur dis que vous pouvez couper votre moteur. Donc,
alors du coup,
qu'on coupe l'éclairage, vous savez, ça va être compliqué. Moi, j'habite aussi à Paris, entre la Place Blanche et la Place Pigalle. Ouais. Quand je mets mes petits-enfants...
Ah ben là, il y a de la lumière.
On ne voit rien, on voit juste la tour Eiffel et le faisceau.
Mais du coup, pour répondre à Hervé, quelle est la meilleure heure, en fait, pour voir le ciel, les étoiles et la Voie lactée?
Voilà, la meilleure heure pour voir le ciel, déjà, en hiver, c'est plus pratique parce que le soleil se couche plus tôt. Ouais. Bon, il fait un peu froid, mais le ciel... Non, pas souvent. Quand il fait beau, le ciel est vraiment d'une très belle transparence, très souvent. Et puis, il y a des très belles constellations, comme Orion, comme le Grand Chien, etc., qui sont vraiment des très très belles constellations d'hiver. Ce que pointait l'auditeur, Hervé...
Est-ce qu'on peut uniformiser, alors?
Voilà, on peut passer par le solutionnisme technique pour répondre à ce problème, mais si on ne fait pas la coordination des acteurs au niveau du territoire, on voit que chacun fait son action dans son territoire, et puis il n'y a pas de coordination. Donc ça, le réseau écologique, d'un point de vue compris comme outil politique, il peut servir aussi à ça, à coordonner les acteurs entre eux dans leurs actions.
Alors, des messages sur franceinter.fr. Clément sur Facebook, habitant entre Bâle et Mulhouse, avec un aéroport qui éclaire le ciel plein feu et des lampadaires qui quadrillent mon jardin. Pas évident d'observer le ciel et de pratiquer l'astrophotographie. Même chose, Raphaël, la pollution lumineuse, dit-il, n'est malheureusement plus réservée aux villes. Dans les campagnes, les lumières des éoliennes rivalisent avec le ciel étoilé et par endroits, on se croirait à l'aéroport de Roissy.
Alors la question des aéroports, elle est très intéressante. J'avais mené avec mes collègues du collectif Renoir il y a quelques années une expertise pour l'Assemblée nationale sur cette question-là. Et on était allé voir différents aéroports. Déjà, il y a que deux aéroports en France qui sont dotés d'une cellule environnement, Toulouse et Lyon. Donc ça, c'est déjà...
Même par Roissy ?
Voilà, non. Donc il y a une question d'autorité et de compétence environnementale des aéroports. Et puis ce qu'il faut bien avoir en tête, les aéroports, c'est complexe parce que il y a des normes au niveau international sur la lumière, le balisage des pistes, et puis il y a des normes pour la sécurité au travail à partir du moment où il y a des personnes sous la lumière, les personnes qui travaillent le long des voies pour les bagages, etc. Donc c'est un problème très très compliqué. Les élus n'ont pas vraiment la main sur les aéroports.
Alors on a un appel d'Emmanuel qui est dans le 8e arrondissement de Lyon. C'est quelqu'un nous entend à la mairie, elle dit au secours, il est 13h45 et les réverbères autour de chez moi sont toujours allumés. Ça arrive qu'on laisse les
Alors
les
ça
lumières,
arrive,
les...
ça arrive parce que
c'est un oubli.
Il se peut, alors c'est soit un oubli, soit une
si équipe. Si on nous entend, éteignez s'il vous plaît.
Soit une équipe technique est en train d'intervenir et en train de regarder, de chercher une ampoule qui est défaillante, etc. Enfin, un luminaire qui est défaillant et donc ils allument toute la ligne. j'imagine, pour trouver le luminaire défaillant pour pouvoir intervenir. Ça peut être du délestage aussi électrique.
Merci en tout cas Samuel Chaléa. On n'oublie pas le jour de la nuit, donc c'est samedi dans toute la France. On va sur le site lejourdelanuit.fr pour voir ce qui se passe près de chez soi. Il y a tout un tas d'initiatives de balades nocturnes justement.
Ouais, ça sera l'occasion. Il faut y aller et puis c'est rendre hommage aussi aux associations locales qui luttent pour ça.
Et puis ce livre Sauver la nuit qui paraît aujourd'hui même chez Premier Parallèle. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Juste après les infos, le dernier reportage de Sandy Dauphin à Langouette. Le village breton a pour ambition justement de produire sa propre électricité verte.
France Inter. La Terre au carré.
Au menu de cette deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète dans quelques minutes avec aujourd'hui Aline, une auditrice qui est architecte et qui travaille sur des constructions zéro déchet. Et puis enfin notre invité découverte est le photographe américain Alex McLean. Il publie un ouvrage de photos aériennes pour rendre compte de la montée des eaux. Mais pour le moment, dernier volet de notre série de reportages consacrée au village de Langouette, véritable laboratoire écologique en Bretagne, Sandy Dauphin.
Oui, après l'école, le logement, les transports, zoom cet après-midi sur les énergies renouvelables. Le village veut produire et consommer sa propre électricité verte. Il lance l'un des premiers projets d'autoconsommation collective en France, n'est autorisé que depuis 2 ans. Mais ça fait longtemps que la commune mise sur les énergies renouvelables. Elle installe des panneaux solaires sur les toits des bâtiments municipaux, comme ici, à l'entrée du village. Ça, c'est le local technique de la ville ?
Oui, c'est le local technique de la commune ici.
Donc c'est là où vous stockez quoi, le matériel ?
Tout le matériel est stocké là, donc voilà, les tondeuses, les tracteurs, tout ça. Moi, c'est monsieur Legendre Roland. Donc je suis employé communal depuis 1997 à la commune.
Alors on va aller voir la centrale.
D'accord, et donc là, c'est le...
Donc le toit avec les 140 panneaux solaires qui sont ici là.
Ah ouais ?
Oui.
Vous êtes votre local technique, il est alimenté uniquement avec l'électricité photovoltaïque.
Avec l'électricité. Et le plus est donc revendu à l'EDF. Et ce qui permet de rembourser l'atelier communal sur une vingtaine d'années, je crois.
Daniel Cueff, le maire de Langouette.
Si, on est donc sur le toit de l'école maternelle, donc qui reçoit ici des panneaux photovoltaïques. C'est les premiers panneaux photovoltaïques installés sur un équipement public en Bretagne. C'est visité aujourd'hui comme des collecteurs parce que c'était les tout premiers que nous avons installés. C'est des panneaux que nous avons été chercher en Allemagne parce que c'était très difficile d'en trouver ici localement. On nous disait à l'époque que c'était pas du tout la peine d'essayer d'installer des panneaux photovoltaïques en Bretagne parce que comme chacun sait, il n'y a pas de soleil en Bretagne. Et c'est vrai que si nous nous étions attachés à tous les problèmes que nous allions rencontrer, nous nous serions découragés immédiatement.
On continue la visite de Langouette ?
Oui.
Pierre Moal et je suis en charge du photovoltaïque chez Energive. C'est une société à 77% public avec le syndicat départemental d'énergie, Rennes Métropole et le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine.
Là on se trouve à côté de la mairie, près de l'école, à côté du terrain de basket et à la place de cette vieille table de ping-pong bientôt, il y aura un mât et au bout de ce mât, plein de panneaux photovoltaïques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
C'est ce qu'on appelle un tracker photovoltaïque. Alors en fait, c'est une centrale photovoltaïque de 75 mètres carrés qui sera installée à un peu plus de 3 mètres du sol et qui sera motorisée pour suivre le soleil toute la journée, un peu comme un tournesol pour maximiser la production. Alors là, le tracker produira à peu près 20 mégawattheures par an.
C'est quoi, c'est une douzaine de maisons ?
Ouais, c'est ça, c'est une douzaine de maisons. Alors l'électricité, elle sera, au lieu d'être vendue sur le réseau à EDF, elle sera distribuée directement aux habitants de la commune qui souhaitent faire partie de l'opération.
C'est une opération d'autoconsommation, c'est ça ?
C'est ça, c'est une opération d'autoconsommation collective. Donc c'est permis par le Code de l'énergie depuis 2 ans. Il doit y avoir à peu près 16 projets en France qui ont déjà été réalisés. Et donc c'est un modèle où en fait on crée une association qui organise comment est-ce qu'on va distribuer l'électricité dans le village. Donc par exemple, si j'ai produit 15 kW à midi, que Monsieur Dupont a consommé 300 watts à midi, bah je vais lui affecter 300 watts et on va se répartir comme ça toute la production du tracker localement en circuit court.
Daniel Cueff, le maire de Langouette.
Nous souhaitons produire autant d'énergie que nous consommons, C'est un projet politique, mais encore faut-il que nous trouvions les artisans, que nous trouvions les producteurs, que nous trouvions les systèmes, l'ingénierie qui nous permet d'arriver à notre objectif politique, qui est un objectif de produire de l'énergie locale pour contrebalancer l'énergie nucléaire aujourd'hui qui est en fin de vitesse, en fin de vie probablement. Et il nous faut donc réagir localement et essayer de produire notre propre énergie localement. La politique, c'est pas fait pour refaire ce qu'on fait déjà. Sinon, ça sert à rien de faire de la politique. Ça ne fait pas avancer la société, ça ne fait pas avancer la technologie, ça ne fait pas avancer les problématiques d'environnement et de santé.
Mais voilà, toutes les décisions politiques de ce maire écologiste ne font pas l'unanimité. Daniel Keuf est convoqué lundi prochain au tribunal de Rennes. La préfecture considère que son arrêté municipal pour réduire l'usage des pesticides près des maisons est illégal.
Et votre série de reportages cette semaine consacrée donc à Langouette sont à réécouter. Cette série est à réécouter sur la page de la Terre au Carré sur franceinter.fr. Merci Sandy Dauphin. À très bientôt.
France Inter. La Terre au Carré. Solutions pour la planète.
Bonjour Aline.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes en ligne avec nous car vous êtes architecte et vous travaillez sur des constructions zéro déchet, un projet qui est accompagné par un incubateur économie circulaire de Paris Co. Est-ce que dans le monde d'abord de l'architecture, ça bouge aussi beaucoup pour imaginer des constructions plus durables et répondre aux enjeux environnementaux du moment ?
Alors, c'est un petit peu comme dans tous les métiers. Il y en a oui, il y en a non. Il y en a qui bougent, il y en a qui bougent pas. Pour expliquer un petit peu d'où je viens, effectivement, avec mon associé Pascal, on est architecte à travailler sur les questions écologiques et pour ma part sur le patrimoine depuis 98. Et en fait, on a fait un pas de côté. C'est-à-dire que nous ne sommes plus architectes. J'ai toléré qu'on m'appelle architecte, mais c'est une profession réglementée et en tant qu'architecte, on ne construit pas. Et en fait, pour notre part, on a dû, du coup, déposer le titre pour pouvoir faire développer un projet, un procédé constructif qui change justement la donne. Alors, les architectes changent absolument avec la société. Et en fait, la situation des architectes, c'est de créer un projet pour un donneur d'ordre. Donc, quand ils ont un client audacieux, eh ben ils innovent. Mais quand ils n'ont pas de client audacieux, ils doivent chercher des affaires, et ben ils n'ont pas la chance d'innover. C'est pour ça qu'on a fait un pas de côté en disant, si on veut pouvoir faire des choses qui se répliquent, changer même de manière de penser, de paradigme, il faut qu'on puisse maîtriser aussi la partie construction.
Donc Aline, je peux encore vous présenter comme architecte, il n'y a pas de problème. Allez. Bon, en tout cas, la transition écologique, elle est possible dans la construction, évidemment. Enfin, il y a plein d'idées à développer, j'imagine, et c'est ce que vous faites d'ailleurs.
C'est ça, le constat vient quand même. Alors moi j'ai travaillé sur le patrimoine, donc je peux parler un peu sur des références très anciennes. Anciennes, la construction a toujours été dans une économie circulaire. On réutilise des poutres, on réutilise des pierres, la chaux retourne à la terre, etc. Et depuis l'après-guerre, avec l'avènement du béton, eh ben la construction est rentrée dans un système linéaire. C'est-à-dire, on puise de la ressource, on exploite même, on utilise après le bâtiment, et puis on démolit et on jette.
Oui, ça fait beaucoup de déchets, le BTP, hein.
Voilà, c'est un tiers à peu près de notre production de déchets. Donc je passe après surtout sur les questions de gestion de l'eau et d'utilisation de l'eau pour le béton, etc. Mais ça a répondu à des problèmes d'après-guerre, il n'y a aucun souci. Mais aujourd'hui, avec l'épuisement des ressources, les problèmes de gaz à effet de serre et les économies d'énergie inévitables, la question se pose. Et c'est vrai que nous, notre cheval de bataille, ça a plutôt été les déchets. Pourquoi ? Pour la bonne et simple raison que l'immobilier a pour caractéristique d'être immobile, immuable, et que nos usages, que ça soit dans les organisations, que ça soit dans l'habitat, même les équipements, les bureaux et autres, évoluent tout le temps. Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez des usages qui évoluent ? Ben vous faites évoluer vos espaces, donc vous cassez. Donc vous créez du déchet. Donc dans une société où on est de plus en plus en transformation, avoir des bâtiments qui ne peuvent pas se transformer, c'est garantir l'augmentation encore des déchets. Et sur cette notion de réutilisation qu'on a travaillé.
Et on rappelle ce chiffre, hein, pas chaque année en France, les déchets du BTP, c'est 40 millions de tonnes, notamment à cause du béton.
Oui. C'est vrai, quand je dis un tiers, c'est pas tellement visible.
Oui. Aline, donc l'idée pour vous, c'est de travailler dans l'économie circulaire, hein, c'est ce que j'ai compris de ce que vous nous disiez. Alors comment vous travaillez ? Quelle est l'idée forte justement quand on veut construire autrement en proposant des choses vertueuses ?
Alors, la manière dont on a fait un pas de côté, c'est de dire, au lieu de faire des projets one-shot, comme on dit, c'est-à-dire le projet exemplaire de l'architecte, il faut qu'on puisse faire du réplicable, donc industrialisé. C'est ce qui permet aussi de maîtriser la fabrication, c'est ce qui permet de maîtriser les matériaux, c'est ce qui permet de maîtriser le coût global du chantier. Alors, nous, la manière dont on a
participer à cette réflexion sur la préfabrication, c'est de dire on va préfabriquer des éléments, mais il faut que l'ensemble des éléments qui constituent le bâtiment puissent être un jour réutilisables. Mmh. C'est-à-dire faire des bâtiments dont tous les éléments, à un moment donné, puissent servir en fin d'usage ou même en fin de vie de bâtiment, puissent être réutilisés.
Voilà. Alors par exemple...
Oui.
Dans quel matériau, enfin, à quoi ça ressemble?
Alors, pour notre part, nous, chez Agilcare, on travaille avec du bois, parce que c'est la culture de la société, et parce que c'est ce qui nous apparaît le plus écologique, voilà, sur les matériaux sains, les filières courtes. Après, on engage tout le monde à réfléchir sur cette, tous les professionnels du métier à réfléchir sur cette notion de réemploi. C'est-à-dire, faire des éléments qui vont construire un bâtiment, mais qui vont pouvoir, en fin de vie, être démontés, et les éléments réutilisés. C'est comme les Lego quand on était petit.
Ouais.
Une fois que vous avez fini de jouer avec votre château, vous enlevez tout, vous mettez tout dans la boîte, et puis trois jours après, la petite sœur, elle vient et elle fait autre chose.
Et ça, c'est vraiment possible de le faire de bout en bout, Aline ?
Alors, nous, on optimise déjà le gros œuvre. Ce qu'on appelle le gros œuvre, ça va être l'enveloppe, la couverture, les planchers, etc. Et on travaille effectivement avec d'autres entreprises sur la partie seconde œuvre, c'est-à-dire l'électricité, la plomberie. Mais il y a déjà beaucoup de solutions qui existent. En fait, on n'a rien réinventé au sens propre. On a simplement remis un peu d'intelligence et de cohérence dans ce métier de la construction.
Ouais.
On réutilise des choses qui existent, en fait. Le bois, il existe. La construction sèche, ça existe. Déjà, on est sur des innovations plus d'usage et de réflexion et de concept plutôt que sur une innovation technologique. On est même, nous, à l'opposé, on est très low-tech. Donc, on est très fiers chez Paris & Co qui nous a accepté parce que de nos jours, les incubateurs, ils sont plutôt fans de la grande technologie. Non, nous, on a essayé de faire dans la sobriété. Ouais.
Bon, qu'est-ce qui vous garantit que dans 50 ans ou dans 100 ans, même la maison que vous aurez construite, eh bien, elle va pouvoir être démontée entièrement ?
Que la manière dont on assemble, c'est justement fait pour pouvoir être désassemblé. C'est-à-dire, on n'est pas sur des procédés qui font des panneaux sandwich où tout est collé, où vous ne pouvez plus après séparer les matériaux. Voilà, déjà réfléchir des éléments constitutifs en assemblant des matériaux qui peuvent être désassemblés, c'est garantir qu'en fin de vie, tous les matériaux vont pouvoir rentrer dans une chaîne de réemploi.
Bon, bah ça bouge aussi alors dans votre domaine, Aline. On en
Absolument.
Est en tout cas la preuve.
Et puis j'imagine que la construction renouvelable.
Ouais. Ben oui, bien sûr. Voilà. Et puis j'imagine qu'il y a de plus en plus de demandes aussi pour tous ceux qui souhaitent avoir des constructions plus vertueuses. Merci beaucoup en tout cas, Aline
Merci
Maréchaux, pour ce témoignage. Et c'est une solution également pour la planète.
Eh oui, ça en fait partie, c'est bien.
Et si vous en avez de votre côté, n'hésitez pas à nous rejoindre au 01 45 24 7000, puis également sur le site de l'émission. Dans un instant, notre invité découverte est le photographe américain Alex MacLean. Il s'intéresse à la montée des eaux. On en parle après Vanessa Paradis.
Je le savais, le cœur a ses failles. Pourtant c'est vrai, la surprise est de taille. Cette histoire de fou allié, y avait-il un défaut, un vice caché?
Dans les airs.
Vague à l'âme sœur, c'était
Vanessa Paradis.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Bonjour Alex MacLean.
Bonjour.
Vous parlez français ?
Non.
Merci d'être avec nous. Vous êtes américain, pilote d'avion, photographe et militant écologiste. Et vous publiez ce livre, ce beau livre, Impact, vision aérienne d'une zone assiégée avant la montée des eaux. C'est aux éditions de La Découverte. Et l'idée pour vous était d'essayer de rendre compte de l'inexorable montée des eaux pour parler des effets du réchauffement climatique. C'est donc par la photographie aérienne que vous menez ce travail d'alerte, c'est ça ?
Yes, I've been working on this project for about 2 years now.
Ça fait environ 2 ans que je travaille sur ce projet. Mais les questions du climat, je m'y intéresse depuis une quinzaine d'années.
So this project I decided to take on because climate change.
Ce projet, j'ai décidé de l'entreprendre parce que le dérèglement climatique fait l'objet de scepticisme aux États-Unis quant à la montée des eaux. Alors là, c'est totalement indéniable. Je ne vois pas comment on peut être sceptique. C'est un phénomène universel et irréversible. Et ça va constituer un problème immense dans les zones côtières à partir de maintenant. Donc, cet ouvrage est en fait le résultat d'une exploration des zones côtières sur la côte ouest des États-Unis et la côte ouest de la Floride et le sud des États-Unis quant aux impacts auquel il faut s'attendre. Mmh.
La côte est ou la côte ouest ? Parce que là, on a des photos beaucoup de Texas, du New Jersey, donc on est sur, sur l'est américain.
I did the East Coast
après,
and
j'ai
the Gulf
couvert
Coast,
la côte est et la côte qu'on dit... Donc sur la côte est, il y a 14 États, et la côte du Golfe, là on est de la Floride jusqu'au Texas, vous avez raison de me corriger, pardon.
Ouais.
Voilà.
Alors justement, Alex MacLean, est-ce que ça c'est vraiment très étonnant le fait que les Américains soient encore très sceptiques quant aux effets du réchauffement climatique sur la montée des eaux en particulier, parce qu'on voit vraiment que votre pays, et cette côte est en particulier, est balayé régulièrement par des ouragans ou des tempêtes extrêmement fortes, et qu'aujourd'hui les Américains le vivent dans leur chair et dans leur maison même. Hein.
This is true. But the hurricanes really in the
oui,
last
vous avez raison, mais au cours des 10 dernières années, les ouragans sont devenus de plus en plus puissants. Il faut dire aussi que les zones côtières sont de plus en plus peuplées, et puis les ouragans eux-mêmes sont plus importants en raison du dérèglement climatique. Et les épisodes d'ouragans ont un impact très important sur les zones côtières, et puis la montée des eaux ne fait qu'accentuer le problème.
Alex MacLean, vos photos sont très impressionnantes dans votre bouquin. Vous les prenez du ciel, puisque donc vous êtes pilote d'avion, vous les prenez en avion. Est-ce que c'est compatible d'être pilote d'avion et militant écologiste et d'alerter sur le réchauffement climatique en avion ?
Yes, this is true. I agree with you on the conundrum.
Oui, c'est vrai qu'il y a là une contradiction. Mm. Je suis pilote d'avion et je dénonce le dérèglement climatique. J'espère pouvoir réduire le total des émissions en informant les gens, malheureusement, grâce à l'avion. Il y a là un paradoxe, j'en conviens. Mais on utilise des drones de plus en plus pour la photo aérienne. Donc les drones sont électriques et n'ont pas d'empreinte carbone. Moi, mes photos, je les fais en avion lorsque ce n'est pas possible d'utiliser des drones. Donc, j'utilise de plus en plus des drones, mais dans certains cas, j'utilise l'avion.
Ouais. Est-ce que ça remet en cause finalement aussi votre métier, votre pratique même de pilote d'avion, Alex MacLean ?
Yes and no.
Réponse de Normand, oui et non. Alors d'abord, parfois la météo rend la photographie aérienne difficile, mais en dehors des incidences météorologiques, je ne vois pas trop de problèmes à faire des photos aériennes, mais généralement je me renseigne sur la météo avant de me lancer. Mais au cours des 20 dernières années, j'ai remarqué que les vents sont un petit peu plus forts qu'auparavant.
Alex MacLean, il faut décrire quelques-unes des photos qui sont extrêmement impressionnantes, belles, poétiques d'ailleurs aussi, malgré elles, on pourrait presque dire les choses comme ça. On voit par exemple ces photos de manèges dans le New Jersey, ces manèges qui sont au bord de l'eau et qui se retrouvent broyés ou emportés par les eaux après les différentes tempêtes. Vous avez fait plusieurs photos justement de ces sites.
Right. Well, the seashore in large along the coast is an tourist attraction.
Mais les zones côtières sont des endroits où les gens vont pour s'amuser, se promener. Et il y a certes des parcs d'attractions le long de la côte du New Jersey et ailleurs aussi. Eh bien, il y a un afflux de touristes. Et c'est un problème parce que parfois il faut évacuer les îles côtières parce qu'évidemment la météo ne permet pas d'y rester. Mais lors de mes vols ou de mes survols des zones côtières, j'ai appris beaucoup de choses, choses qu'on ne pourrait pas bien percevoir du sol. Les zones côtières font l'objet de problèmes particulièrement prégnants, notamment en été.
Dans vos photos, est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué? Et si oui, est-ce que vous pourriez nous la décrire tout simplement?
Alex MacLean.
There are a number of photographs that really, you know, taken me.
Une seule photo, c'est difficile. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué.
Some of the things is just the power of the storm.
Parfois, c'est la puissance d'une tempête qui est impressionnante parce que les dégâts provoqués peuvent être immenses. Et ça, je peux vous dire que ça vous coupe le souffle. L'ampleur des dégâts résultant d'un ouragan, des milliers de maisons qui sont simplement balayées comme ça. Et après l'ouragan Ike, tout a été rasé. Et 10 ans plus tard, on a rebâti.
On voit également une photo incroyable avec des riches propriétaires qui construisent donc une digue devant leur maison et qui font surélever également leur maison pour la protéger des vagues. C'est absolument hallucinant.
Oui, ce n'est pas rare dans les zones côtières aux États-Unis. En fait, c'est une contradiction parce que qu'est-ce qu'on fait? On va au bord de la mer pour se détendre, pour profiter de l'environnement. Et il faut se préoccuper de ces épisodes absolument horribles. Quel stress! Ça doit être extrêmement stressant que de vivre dans une maison comme ça. En réalité, la zone côtière est renforcée, elle est endurcie pour protéger la côte et les infrastructures et les maisons qui sont bâties. Donc, on fait des digues, des murs, on surélève les maisons. Mais lorsque l'on construit des murs, eh bien, on s'isole de la plage et la plage, évidemment, se rétrécit, est endommagée elle-même.
Alors, il y a aussi ces photos incroyables de villes gigantesques qui sont construites sur des îles artificielles et dont on sent déjà toute la fragilité par rapport aux vagues. Et puis, vous montrer ces îles barrières dans le golfe du Mexique qui ont été volontairement coupées en deux pour laisser passer la flotte de pêche. Des îles barrières qui sont donc des protections naturelles.
Oui, en effet, il a été fait des passages. C'est très, très étonnant. Il y a beaucoup d'îles barrières comme ça au sud de New York. Elles sont très nombreuses le long de la côte. Et il y a des passages. Et en l'occurrence, ce dont vous parlez, effectivement, ça laisse passer les bateaux de pêche. Donc, on a bâti une sorte de canal à travers les îles barrières.
Voilà, on vous conseille ce livre, ce beau livre d'images incroyables d'Alex MacLean. Il s'appelle Impact, c'est aux éditions de La Découverte. Et vous serez ce soir à 20h à l'école d'architecture de Paris-Belleville pour une rencontre débat avec le public. Merci beaucoup, thank you so much Alex MacLean.
Merci, thank you.
Et merci à Xavier Combe pour la traduction. Merci Camille.
À demain.
À demain.